Bonjour à tous, je suis Mathilde De Polis, psychologue et psychothérapeute en thérapie comportementale, cognitive et émotionnelle. Bienvenue dans Mouvement, le premier podcast pour décomplexer et parler librement de nos émotions. Un podcast qui nous met en action grâce à la libération de la parole autour de ce sujet qui nous concerne tous. Mouvement a l'ambition d'être un point de repère qui nous permet d'aller plus loin sur nos émotions. Avant de vous embarquer dans ce nouvel épisode, j'aimerais vous parler de mon projet Mouvement. J'ai créé pour vous deux programmes en ligne. Mon objectif avec ces programmes est de vous aider à mieux identifier, comprendre et vivre avec vos émotions. Accessibles à tous, ces programmes ont été conçus pour être suivis à votre rythme, selon vos envies et le temps que vous choisissez d'y consacrer. Nous avons de nombreuses croyances autour des émotions. Nous pouvons avoir tendance à imaginer que le fait de les cacher peut donner l'image de quelqu'un de fort, de courageux. Ces croyances sont ancrées, pourtant elles nous desservent bien souvent. Dans ces programmes, je m'appuie sur des études sur l'intelligence émotionnelle, les thérapies comportementales, cognitives et émotionnelles, ainsi que mon expérience en cabinet, pour vous proposer des vidéos ludiques accompagnées d'un guide pratique et d'une boîte à outils. Si vous êtes curieux de découvrir mes outils, que vous souhaitez mieux vous connaître et vivre plus en sérénité, rendez-vous sur mon site internet mouvement.mathilde-depolis.fr. Je compte sur vous pour en parler autour de vous et maintenant, place à l'épisode. Je suis heureuse de partager avec vous l'échange que j'ai eu avec Marie, fondatrice de l'association PermaPS, qui a pour but de promouvoir la santé grâce notamment à une ferme pédagogique, les pieds sur terre, et un espace de partage équilibre. Marie est de ces personnes qui captent l'attention, non seulement par son parcours impressionnant, mais aussi par son authenticité, sa profondeur et sa voix. Dans cet épisode, Marie nous partage ses réflexions autour de l'ascension du Kilimandjaro, avec notamment l'importance de l'engagement, de la préparation mentale et de la confiance en soi. Ce que j'admire chez Marie, c'est sa capacité à être dans l'action, à faire et à se détacher du regard des autres, d'accepter son décalage et de lutter pour des causes qui lui tiennent à cœur. Mais aussi de transformer cette colère qui parfois se retourne contre nous en de magnifiques projets qui font grandir. Je vous invite à plonger dans cet échange profond. Vous verrez, cet épisode donne la pêche et nous donne envie de passer à l'action et peut-être même de faire l'ascension du Kilimandjaro. Vous me direz. Très belle écoute. Bonjour Marie.
Bonjour Mathilde.
Comment vas-tu aujourd'hui?
Et là, tout de suite, honnêtement, si on se calme vraiment, un petit peu stressée. Rien de caché et fatigué.
Tu saurais dire de quoi t'es stressé?
Le côté un peu inconnu, là, de faire cet entretien, de pas savoir
où on va.
Ah, donc, c'est une bonne excitation, ça, c'est un stress positif, mais petit palpitant. Pas besoin de prendre de café, quoi, là. Je suis bien.
Non, pas besoin de prendre de café. Et tu sais quoi, moi non plus, je sais pas où on va. Donc, allons dans l'inconnu toutes les deux. Je suis très contente de prendre ce temps avec toi. Ça fait quelques années qu'on se connaît et puis ces derniers mois, on s'est un peu plus vus parce qu'on en parlera peut-être un peu plus. Il y a des projets qui nous lient, qui nous tiennent à cœur. Mais aujourd'hui, c'est de toi dont on va parler. Et la première question de mouvement est clairement pas la plus évidente, mais elle va nous donner un peu un axe aussi de qui tu es et de qui tu es devenue aujourd'hui. Si on repense à... Du coup, j'ai envie de t'appeler Mimo pour cette question, parce que c'est ton surnom. Si on repense à la petite Mimo et à ses émotions, est-ce que tu peux nous en dire plus?
Ah la vache, ouais, c'est vrai que tu mets vachement bien dans le bain. Petite Mimo, alors je vais te parler au travers plutôt de ce qu'on dit de moi ou du regard de mes parents et toute petite, et en même temps je les crois parce que je suis encore
comme ça.
Un peu comme ça. Quelqu'un qui était déjà qui a été très indépendante vite, mais même petite, tu vois, sur ce côté pas rentrer dans les cases, un petit peu. Alors moi j'aime pas dire le mauvais caractère. J'ai du caractère, ok. On précise la nuance, s'il te plaît. mais toute petite, on me l'a fait notifier. Je pense à juste deux exemples pour comprendre un peu le tempérament. Déjà 3 ans, école maternelle, je suis convoquée, enfin on convoque mes parents pour dire, ah, vous allez avoir du mal avec, je suis 3 ans, avec votre fille. Elle refuse, tu vois, de ranger les affaires quand je lui demande. Parce qu'en fait, il y avait des temps où bah, tu joues et si je n'ai pas fini de jouer, en fait, j'ai pas envie de ranger, quoi. Ou mon père qui pouvait me dire range ta chambre ou je te mets une claque. Bah, je disais, bah, ok, mets-moi la claque. Mais,
mais
donc, okay. C'était non, tu auras la claque et tu vas aussi ranger ta chambre. Donc, tu vois, un caractère déjà
bien trempé.
Et, enfin, bien trempé, je dirais même pas ça, mais c'est vrai que envie de, peut-être depuis toujours, de faire ce qui me plaît et pas de rentrer forcément dans un cadre et un peu de mal avec le cadre.
Avec le cadre, et ça, c'est resté longtemps.
C'est resté longtemps. J'ai 38 ans maintenant, donc je l'ai bien travaillé.
Okay.
Sache-le, ça va beaucoup mieux. Quoique, ouais, un peu du mal avec le côté pyramidal des choses, patriarcat, des choses comme ça. Quoi. Besoin de militantisme, d'engagement. Depuis petite, quoi.
Alors justement, tu vois, quand on dit qu'un enfant a mauvais caractère ou du caractère, et c'est important de mettre la nuance, on pense à la colère. Justement, quel est ton lien avec cette émotion qu'est la colère ?
Alors, petit, je ne me souviens pas être dans la colère, mais plutôt dans le côté fronté wild, tu sais, le côté nature. Enfin, tu es dans le plaisir, quoi. Donc, juste être un enfant, en fait. Donc, juste ça, je n'étais peut-être pas dans le bon cadre avec une école qui est, on veut te mettre déjà dans ces cases-là. Je ne me souviens pas être de colère petite. C'est plus arrivé au collège avec côté, tu sais, d'injustice. J'ai beaucoup voyagé. Et en fait, à ne pas comprendre les inégalités sociales, à ne pas comprendre... pourquoi, alors qu'il y a des pays où il y a des moyens, on va les mettre, je pense à un premier voyage, et je pense que ça a pas mal découlé sur tout ce que j'ai fait après. J'étais partie voir de la famille en Côte d'Ivoire, à Abidjan, et en fait, j'ai un oncle qui avait fait toutes les moulures de ce... qui avait bossé, fait toutes les moulures. Et puis, j'arrive, je vois ce truc-là, c'est magnifique, la petite maison papale, etc., une richesse, des lustres qui coûtent des millions, etc., et en même temps, des enfants qui crèvent la dalle dehors. Il y avait encore le fait de pouvoir, si tu volais, on te coupait la main, on te tuait, on te laissait en exemple. Et tu vois, cette dissonance-là, cette injustice, pour moi, était assez violente. Et avec une, je pense, peut-être une candeur un peu en disant, mais je ne comprends pas pourquoi. Toi, tu as la maison papale, le mec, il n'a jamais foutu les pieds, il ne viendra peut-être jamais. Pourquoi on ne l'ouvre pas aux SDF, aux gens qui ont des besoins et... Mais parce que pour moi, ça doit être aussi évident, normalement, et ça devrait, tu vois, l'être. Donc, il y a un peu ce truc-là qui a réveillé pas mal de choses.
Ça, t'avais quel âge ?
Je devais avoir 10-12 ans.
Ah ouais, ok.
Tu vois ?
Oui, donc tu parles de cette candeur, mais il y a quelque chose en fait de très humain derrière cette observation qui a l'air si simple en fait quand tu le dis comme ça.
Oui, mais en même temps, quand j'ai dit candeur, te dire, il m'a regardé en disant, bah, ça serait si c'était aussi facile de dire oui, mais non. Mais alors, en vrai, si, ça devrait être ça, quoi. Et je pense que je l'ai cultivé toujours. J'ai toujours été l'avocate. Tu vois, le petit gros, celui qui est délaissé, qui est machin, bah, ça va être mon meilleur pote, faut que je les défende. Je suis l'avocate de tous les enfants. Enfin, tu vois, il y a toujours ce truc-là qui m'a poursuivi, quoi.
Et donc, l'injustice, le côté avocate, et pourtant, t'es pas devenue avocate.
Absolument pas.
T'as pas choisi ces
études-là. Mais je pense que, tu vois, ça aurait pu être, le système peut-être. J'aurais été trop frustrée.
Je pense. Mais du coup, aujourd'hui, comment tu arrives à réaliser ce côté de justice et cette colère que t'as l'air de tourner d'une manière saine pour en faire une belle énergie, quoi.
Boulimique de projet. J'ai toujours travaillé dans le milieu associatif, d'être dans des projets d'économie sociale et solidaire, d'aller sur le terrain. Je suis très engagée et militante, mais je vais pas être dans le truc aller faire des manifestations. Enfin, il en faut, je dis pas. Moi, c'est pas mon truc. J'ai besoin d'être dans le faire, dans l'action. Tu vois, il y a un truc qui est, c'est là-dessus du coup où je vais. Essayer de répondre à ces injustices-là, d'être dans l'action, les petits pas, j'y crois vraiment, tu vois. Je ne vais pas aller forcément changer des lois, mais d'être sur des outils, de rendre des individus heureux, qu'ils soient, eux, bien épanouis, etc., va faire que, normalement, ils seront mieux dans le système où ils sont, tu vois. C'est un peu un truc... je pense que le toit va s'envoler.
Ah ouais, c'est impressionnant.
J'aimerais trop que les gens puissent voir où est-ce qu'on est, là.
On mettra quelques photos pour illustrer le lieu où nous sommes, mais il y a une grosse tempête, c'est vrai que là, on en ressent... On a le bruit, on a les arbres qui bougent, c'est impressionnant. Tu as fait plusieurs voyages, mais du coup, déjà jeune, quelles sont les raisons de ces voyages par rapport à tes parents
Ça, pareil, depuis toute petite, je ne sais pas, un besoin d'aventure, d'explorer. Donc, toutes les occasions qui s'offraient à moi, je les saisissais. Enfin, mon père nous avait dit que si je voulais apprendre l'anglais, je pouvais, mais du coup, il fallait que... Enfin, je pouvais voyager, mais il fallait apprendre des cours d'anglais. Donc, j'ai fait des voyages, des cours d'anglais le matin, et j'ai visité l'Égypte. Tu vois, il y avait toujours ce truc-là. Là, à Abidjan, c'était ma grand-mère qui me propose d'aller voir de la famille. Ma grand-mère qui était, je pense, a besoin d'avoir quelqu'un. Donc, je m'incrustais à chaque voyage avec elle. Il y avait puis toujours quand même une grande soif de découverte, d'espace, de... tout simplement.
Quand on t'entend parler, on sent du coup toute cette énergie. Mais du coup, enfin moi en tout cas, je ne vais pas dire « on » parce que je me demande justement si tu as peur de temps en temps. D'une manière extérieure, on a l'impression que rien ne fait peur et qu'au contraire, la peur, c'est quelque chose qui va t'animer ou...
C'est bizarre, je ne me suis jamais posé cette question. Je ne crois pas ressentir la peur. En tout cas, non. Enfin, parce que je pense que là-dessus, je me suis formée assez vite aussi à... que tous les échecs sont bons et que tu apprends plus de tes échecs. Je sais.
Ça, non, dès petite, tu l'as...
Ouais.
Ah ouais? Mais c'est tes parents qui t'ont...
Et pas du tout. Je me suis sentie toujours, par contre, en décalage avec ma famille. Je suis partie vite, moi, de la maison, à 18 ans. Okay. Enfin, tu vois, dès que j'ai eu mon bac, je suis partie. Justement, on n'a pas du tout la même vision de la vie, de plein de choses. Je pense que c'est ça aussi qui m'a fait être celle que je suis. Mmh. Parce qu'on n'a pas pris les mêmes chemins avec un papa qui travaille énormément, 3 cancers, ma mère a un cancer aussi. À gérer les émotions, à ne pas mettre de mots dessus, et ça leur a bouffé la santé, tu vois. Donc, j'ai voulu... surtout pas faire
comme eux.
Donc il y avait ce truc-là, et longtemps ils me disaient, mais faut que tu ailles dans la vraie vie, t'es pas dans la vraie vie. Quand j'étais triste, j'avais beau dire, bah, je suis heureuse, mais non, tu te mens à toi-même. Bah non, en fait, le bonheur, c'est des... heureusement. Il y a aussi le malheur dedans, il y a la tristesse, il y a toutes ces émotions-là. Ouais. Et déjà, j'étais très consciente de ça. Donc je parlais pas forcément de mes émotions comme ça, mais très consciente de cette notion de bonheur, de chemin. Tu vois, j'ai fait mon mémoire sur l'art du bonheur, enfin, tu vois, toujours un petit peu. Précurseur de trucs. Donc, du coup, en décalage avec le regard que mes parents et mes amis pouvaient apparaître, clairement. Des fois, un peu une froideur, parce qu'avoir le verre toujours à moitié plein et pas dramatisé, tu vois. Quand mon père, il a eu un cancer, j'étais pas... c'est dur ce que je veux dire, peut-être, mais j'étais pas triste tout de suite. Je l'ai vu tout de suite en me disant, bah, j'ai de la chance déjà d'avoir eu mon père jusque-là. Ça va lui... c'est peut-être une leçon de vie pour lui, pour nous. Et puis après, à vite être pragmatique de comment on va gérer cet événement. Et après, une fois que j'avais fait tout ce petit chemin, j'acceptais d'être triste, de pleurer, et que c'était normal, en fait. Tu risques de perdre ton papa, donc il n'y a rien d'agréable là-dedans. Mais je sais que ça a fait du mal un peu à mes parents. Tu vois, ma mère, comme elle a appris son cancer du sein, elle s'attendait à ce que je m'effondre. Je pense qu'il y ait cette empathie-là, etc. Sauf que moi, je ne la transcende pas de cette façon, cette empathie-là. C'est que je dois être solide pour justement l'épauler et lui dire, bah, regarde, tu vois, il y a une leçon de vie là-dessus, là.
Ah ouais, t'es déjà dans la résilience.
Ouais.
Et du coup, si je reviens, pardon, à la peur, et j'aurai ensuite une autre question, t'es pas quelqu'un d'anxieux?
Non, je crois pas. Non. Je peux être stressée.
Ouais, le stress, c'est encore autre chose. Mais vraiment, tu vois, cette anxiété de ruminer, de dire « attends ».
Ah ouais, non.
Ouais, hein, en fait, t'es vraiment dans l'action et détaché de ces attentes sociales, mais déjà des petites.
Ouais.
C'est vraiment la liberté, je trouve, qui te représente, là, quand je t'entends parler.
Et après, ça peut être vu, et moi, j'ai toujours été aussi claire aussi avec ça, comme de l'égoïsme. Tu sais, je suis partie tôt, mon père a eu un cancer, j'ai quand même fait le choix de partir au bout du monde, parce que pleinement conscience, si toi, t'es pas épanoui, tu vas pas au bout de tes rêves, tes projets, bah, tu peux le faire, le faire reprocher à ta famille ou à un conjoint à un moment donné. Donc, j'ai jamais eu de souci avec ça, aller un peu au bout de ça. Mais des fois... c'est perçu comme un peu d'égoïsme. Quoi.
Et ça, du coup, par rapport à l'égoïsme, qu'est-ce que tu as envie de répondre à ces gens qui pourraient te le dire ou qui pourraient penser ça de toi?
Bah, qu'ils ont tort, qu'il faut l'être, que c'est important d'être pleinement bien dans ses pompes, épanoui, aller au bout d'eux pour justement pouvoir rayonner autour. Quoi. Donc, et ça passe par de la discussion, de la communication. Donc, mes parents, et j'ai été contente qu'elles me le disent plus tard, et du coup, ça me questionne aussi sur... comment ne pas heurter, comment justement peut-être en amont discuter, dire que c'est pas une froideur si je pleure pas là tout de suite ou c'est pas que je suis pas touchée, c'est que je suis touchée différemment et que c'est pas là moi mon action n'est pas de m'effondrer, mais c'est d'être tout de suite en mode guerrière pour accepter et d'être résiliente et d'accompagner au mieux quoi. Mais ouais, je pense que c'est un truc qui m'a fait un peu de mal que je réagisse pas comme les autres, comme on voudrait que je réagisse face à des éléments durs, tu vois. C'est pas évident.
Et ce sentiment de décalage, tu l'as encore aujourd'hui?
J'ai travaillé, pour le coup, sur moi.
Comment?
Alors, ouais, j'ai pas été voir de psy. Par contre, j'ai testé kinésologue, j'ai été voir la chamane, j'ai été voir même une médium. Mon excessivité me dérangeait parce que dérange les autres. Donc j'ai mis du temps avant d'accepter ça, en fait, qu'on me le dise. Que, ok, bah, en fait, c'est quoi le problème? Mais le problème, il est pour les autres. Pour moi, il n'y était
c'est
pas.
Ça.
Mais du coup, il fallait l'entendre. Oui. Et qu'on travaille dessus, sur peut-être des blessures aussi plus jeunes. Il y a eu pas mal un cheminement comme ça, un peu quand même thérapeutique. Et j'avais besoin de l'entendre, de dire, je vois pas où est le problème. Tu es comme ça, tu es bien comme ça. Tu réussis les choses qu'elles telles. Et c'est les gens qui doivent te prendre comme t'es ou pas. Quoi.
C'est un cheminement. Ça prend du temps. Et aujourd'hui, dans tes relations, tu trouves que justement, tu es davantage entouré de personnes qui acceptent la personne que tu es?
Clairement. Et ça, tu vois, c'est bien fait quand même, la vie, hein, qu'on attire. Mais pourtant, j'ai été beaucoup avec des gens qui, longtemps, et je pense que j'avais peut-être me confronter à ça, pour moi, me remettre en question, savoir qui j'étais vraiment. Est-ce que de me mettre dans un cadre un peu plus lisse, est-ce que... Bon, en fait, c'est comme une cocotte minute, plus tu essaies de te contenir. Moi, vu que je suis en plus très excessive, c'est... Ouais, je sais pas trop...
Il n'y a pas de juste milieu.
Non, il y a très peu de juste milieu avec moi.
Ce qui m'a amenée et motivée à échanger avec toi aujourd'hui, c'est qu'il y a quelques mois, tu as fait l'ascension du Kilimandjaro.
Petite balade.
Une petite balade. Et j'aimerais que tu nous en dises plus. Alors, je crois que c'est ton chéri, Miguel, qui a eu cette idée. Peut-être, comment est-ce qu'il te l'a présenté? Comment il t'en a parlé? On va dire un peu la genèse.
Ouais, bah Miguel, c'est un passionné, lui, de sport, de montagne, nature, etc. On s'était déjà dit, on s'était mis comme ça des petits défis. Après la naissance de Maë, on avait fait l'Adeto, déjà ensemble. Ensuite, on a grimpé le Vignemale. Il y avait déjà comme ça de faire les Hautes-Pyrénées. Et lui, il a cette passion, il veut gravir les 7 sommets, les plus hauts sommets du monde. Voilà. Moi, je trouve que c'est un truc un peu égo-trip. J'ai pas ce truc-là de... Alors qu'il n'est pas du tout comme ça, mais un peu, j'ai pas ce besoin d'aller gravir le plus haut truc pour dire ouais, je l'ai fait. Pas du tout. Il y a un peu un truc, je trouve, de taille de quéquette là-dessus, alors que
alors pas du tout. Pas Miguel,
et c'est pas du tout comme ça, mais tu vois.
Mais ça le porte.
Mais ça le porte. Et c'est pour ça que c'est bien de communiquer qu'il y a des gens aussi qui font ça juste parce que, ouais, je pense que le côté un peu explorateur d'aller sur le toit là de l'Afrique.
Ouais, puis c'est concret quoi. Enfin,
exactement.
Les sommets, ouais.
Donc, bah, soit t'as envie de faire ça, on est une équipe. Et puis pour le coup, moi passionnée par les défis, n'importe quel qu'il soit. Donc évidemment, j'ai un cursus sportif, donc ça me plaisait. Et je suis la nana pareil hein, qui va faire un marathon et je ne me serais pas entraînée, tu vois, juste pour voir comment mon corps il va réagir, et me dire je l'ai fait. Et si je le foire, j'ai l'excuse de dire
je me suis pas préparée.
Exactement, t'as compris comment je fonctionne.
Okay.
Donc il voulait faire ça. Moi, la haute montagne, c'est quelque chose que je ne connais pas, mais par contre, j'avais vraiment envie d'expérimenter. Tu vois, ton corps avec ses quasi 6000 mètres d'altitude, donc comment ton corps il réagit avec moins de 50% d'oxygène, comment le froid, comment, enfin, je sais, tu vois, le côté...
Tu étais curieuse de
ça,
en fait.
Très curieuse de ça. Donc, j'ai dit, bah, écoute, on se tape dans la main, pourquoi pas, autant vivre aussi, créer des souvenirs, en fait, à deux.
Ensemble,
et c'était notre premier voyage, tous les deux. Tu vois, on a eu, on savait pas si longtemps qu'on est ensemble, on a eu le temps de faire un appart, une maison, un van, de machin, un enfant. Et en vrai, bah, du coup, on n'a jamais pris du temps tous les deux, vraiment quoi. Donc bon, bah, autant se faire une petite randonnée, un petit parcours de santé ensemble. Donc il y avait ce côté défi ensemble qui me plaisait et de le soutenir en fait dans son projet. De me dire, bah, ok, c'est pas mon truc, mais pour toi, je vais le faire. On va revenir là-dessus parce que quelle erreur.
Cette phrase-là, pour toi, je vais le faire.
Ouais, tu vois, on parle d'engagement.
À quel moment vous vous tapez dans les mains, justement, en mode, ok, bah, c'est bon, on le fait
Très rapidement, il m'évoque ce projet-là. Et en fait, il avait fait le Mont Blanc, lui, quelques années auparavant. Et cet ami qui habite en Belgique, il dit, bah, là, cette date-là, viens, on fait le Kili. Donc, il lance le truc, on peut le faire. Tu me dis l'idée, moi, enfin, il n'y a pas besoin de trop de négocier, on y va, quoi. Sauf que, du coup, je fais exprès, moi, de prendre aucune information sur le Kili. Juste, je me renseigne sur qu'est-ce que peuvent être les effets de la haute montagne.
Ouais.
Donc, tu vois, tu peux quand même avoir des traumas, enfin, perte de connaissance. Il y a des enjeux forts.
Mauvissement.
Encore
insomnie.
Insomnie. Perdre, vraiment, tes moyens. Perdre la tête, tu vois, perdre de lucidité.
Ah ouais, avoir un moment de folie.
Ah ouais. Il y a eu des cas, d'ailleurs, pendant le séjour. Tu peux avoir œdème. Tu vois, cérébral, etc.
Cérébral,
donc, c'était plus sur les côtés clinique, etc. Et j'ai surtout vu le truc de... en fait, tu peux être préparé physiquement, être la plus grande sportive du monde. Bah, tu peux être assujettie au mal des montagnes.
Ah
et
oui,
ça,
clairement.
C'est... Tant pis pour toi. Ouais. Donc, ça m'a convaincue à me dire, bah, je ne vais pas m'entraîner. Parce que du coup, je ne serais pas déçue non plus si je ne réussis pas. Je n'aurais pas perdu du temps à m'entraîner, courir et compagnie.
Tu continuais le...
Bah même franchement depuis Maé,
ouais, c'est ça, j'allais dire,
je suis dans une vie active pro.
T'es active.
Mais après j'ai de base, hein, j'ai fait de l'athlète haut niveau, de l'équitation haut niveau. On part quand même sur quelqu'un qui a, tu vois, je surfe, qui a, j'ai des prédispositions.
Un bon
quand
patrimoine.
Même.
De
exactement.
Base,
Mais je vais tout miser sur ce patrimoine.
Voilà.
Pas de, donc et je voulais pas du tout aussi aller regarder des vidéos sur le Chili pour pas être déçue, que tout soit une vraie expérience. Tu vois que les paysages, c'est la première fois que je le vois, de puis pas me faire peur avec les échecs des uns ou des autres. Je l'ai vu, tu vois, on avait un groupe pour être ça, puis là, ça commençait à me stresser, tout le monde qui se préparait, qui allait en randonnée, qui faisait du bivouac, qui préparait leur sac un mois avant. Déjà, du coup, ça te fait un peu culpabiliser. Toi, tu vois, les autres qui sont
C'est intéressant parce qu'on retrouve un peu ton enfance où il y a les gens, tu sais, qui font bien, qui sont un peu sages, un peu scolaires, et toi, t'es là. Bon, je ne ressens pas forcément le besoin.
Ben,
du coup, ça demande quand même de la confiance en soi, de dire, bah, en fait, moi, c'est OK. Tu vois, je me fais suffisamment confiance à mon corps, à ma tête, pour ne pas forcément faire comme tous les autres et se préparer 6 mois à l'avance, faire mon sac un mois à l'avance.
Ouais,
il y a
sûrement
une forme de confiance quand même.
Et une forme de me dire, bah, alors clairement, c'est sûr, j'ai confiance en moi. Je pense que vu que j'ai eu des expériences de la vie où j'ai réussi, c'est, ça nourrit aussi cette confiance en soi.
Tout à fait. Donc
j'ai j'ai pris des prises de risque.
Et
évidemment.
Voilà.
Et c'est ça qui te fait rebondir, que tu dis que tu es capable de rebondir. Mmh. Enfin, je sais que la maladie de mes parents m'a fait aussi rebondir, mais de dire bah, déjà qu'on se relève de tout, que la fatalité n'existe pas, que tu es aussi maître de ton destin, etc. Bon, et là, avec la haute montagne, il y a un facteur que tu ne maîtrises pas. Donc, moi, je me renseigne, et là, du coup, j'ai travaillé aussi là-dessus, de dire mais pourquoi ça me fait culpabiliser, toi, ces gens qui sont bien rangés, de dire. Tu vois, il y a eu un truc quand même qui n'était pas très positif, donc j'ai mis un peu ça en sourdine.
Donc, le groupe WhatsApp, vous êtes combien là?
On était 8.
Ok. Tout le monde se connaît plus ou moins?
Non.
Ah, pas forcément.
Okay. Ouais, enfin, Team Belgium se connaît, Miguel connaît 2-3 personnes, et moi, je connaissais qu'une seule personne et qui, au final, n'a pas pu, le jour J, n'a pas pu partir. Et donc, je connais personne. Et puis, je me dis, je vais être vue encore comme, tu vois, celle qui est, qui est à côté, quoi. J'ai fait vraiment mon sac, tu vois, nous, enfin, la veille, on partait à 6h du mat, je l'ai fait à minuit, quoi.
Ah ouais?
Non, mais, enfin, mais pour le coup, j'accepte, et là, ça que je l'ai accepté, je suis comme ça et on va pas me.
C'est ça.
On va pas me changer.
Ça te va, quoi. Donc, il y a. Parce que là, on est combien de temps, là, avant. Quand tu parles de. Ok, là, ce groupe WhatsApp, je le mets de côté.
Ouais, je l'ai fait assez rapidement parce que vu qu'ils s'entraînaient beaucoup, etc., du coup, ça me faisait culpabiliser. Et après, j'étais aussi confiante pour le coup en me disant. Et Miguel m'a réconfortée en me disant, mais c'est des gens aussi qui sont pas aussi sportifs que toi, pas machin. Donc, dès que j'avais des petits moments de dire. Ça commence à être négatif de voir tous ces gens qui se continuent, mais voilà, chacun son truc. Toi, je pense que même sans entraînement, ben, ça ira.
Oui,
et puis
oui.
Après, il y a l'enjeu de.
On ne sait pas.
On ne sait pas. On sait pas.
Miguel, lui, a cette même manière d'appréhender que toi, parce que c'est ça aussi, c'est que du coup, ok, il y a le groupe WhatsApp, mais il y a aussi ton chéri dans ton quotidien.
Il a fait le sac comme moi à minuit sur ce même truc-là. Par contre, lui, s'entraîne. Tu vois, c'est quelqu'un, c'est un ancien sportif boxeur, machin. Ouais. Lui, a besoin de s'entraîner, il peut s'entraîner entre midi et deux. Mmh. Donc, il avait quand même ses petits entraînements, mais.
Pas plus, non.
Pas plus,
quoi.
Non. On a fait confiance à notre mental et à notre corps. Okay. Disons, ça va être notre plus grand atout.
Vous partez. Voilà. Et donc le Kilimandjaro, on le fait pas non plus comme ça, voilà, parce que on peut pas y aller seul.
Ouais.
Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu pour les gens qui ne savent pas du tout comment ça se passe, quoi.
C'est incroyable.
Faut une petite enveloppe déjà, on peut
ouais,
le dire.
C'est,
hein,
c'est un bon billet quand même parce que tu dois payer, on dit pas, tu dois payer les porteurs, tu as le prix du parc du Kilimandjaro, t'es nourri pendant les 5 jours aussi, donc c'est une enveloppe de 2 500 €. Qu'il faut
plus
compter, quoi.
Plus
le billet d'avion.
C'est pas
négligeable. Pour une expérience de vie, évidemment, genre comment, faut foncer. Mais on se tape, vous voyez, voilà, on part le matin pour Bordeaux. Et je pense que, tu vois, mauvais ou pas, karma, mais on loupe notre avion. Enfin, la compagnie aérienne s'est trompée dans nos billets d'avion. On arrive à Londres et là, normalement, on avait un changement pour arriver un jour. Avant, pour préparer au moins ça, s'acclimater aussi au décalage horaire, etc. Et partir quand même dans des bonnes conditions, parce qu'on part après 5 jours. en haute montagne, à dormir, ouais. Tu vois, à l'arrache, etc. Quoi. Et là, je me dis, putain, c'est pas possible. Alors déjà que je ne me suis pas préparée physiquement, je risque de je loupe l'avion. Et en fait, on arrive le jour J où il faut partir. Donc okay. Tout le monde a pris 2-3 jours avant pour être bien reposé, pour attaquer.
Ah, ouais.
Et là, je me dis, tu vois, punition, vu que nous, on ne s'est pas préparé. Ouais, ouais. Là, on te met encore plus de défis. Tu vas partir, bah, on est arrivé le matin et on partait vraiment l'après-midi. Quoi. Donc sans repos, avec les yeux comme ça. Et,
ok. Là, tu paniques un peu ou...
Bah, le première panique, c'est de me dire... Au final, je le faisais plus pour Miguel, le Kili, c'était pas un truc pour moi. Et quand on m'a dit potentiellement, ça se trouve, tu vas pas le faire. Tu vois, parce que bah, c'était à quelques heures. Tu vois, le groupe pouvait pas nous attendre, tout le monde a payé. Donc, si on n'est pas dans le timing... Et là, je me suis dit, putain, merde, tu vois, c'est comme une expérience de vie. Là, je commence à me dire, ouais, pour moi, j'ai quand même envie de le faire aussi, quoi. Donc, je panique pas. Après, je crois que les choses, elles sont très bien faites. Dans la vie que... Dans ma tête, je conditionne évidemment que ça va le faire. Mmh. Je serais fatiguée, mais bien fait, parce que tu t'es pas préparée, etc. Et ça te met un petit challenge en plus. Ça, je trouve ça drôle, même, dans l'expérience. Quoi. Donc non, le matin, on arrive à temps. Ils viennent nous récupérer directement à l'aéroport. Et puis là...
Let's go, quoi.
Let's go, quoi. Et là, l'aventure qui est géniale, c'est que... trop contente de ne pas avoir vu ce que c'était. J'avais peur de me dire de telle haute altitude. Même nous, au bout de 2000, 3000 mètres, ici, c'est que de la pierre. Il n'y a pas trop de végétation, etc. Quoi. Et là, on part dans un paysage, tu commences à 30 degrés, et puis tu arrives quand même à moins 10, moins 20 de ressenti là-haut. Quoi. Donc, tu vois, des paysages juste à couper le souffle. Et puis là, pour le coup, je m'étais préparée, pas physiquement, mais par contre mentalement.
Et comment tu t'étais préparée mentalement ?
Ben, je me voyais faire l'ascension.
La visualisation ?
Ouais, beaucoup de visualisation.
Et... Mais du coup, sans avoir d'image, en fait ?
Non, pas d'image, mais plus sur le côté randonnée, de me dire qu'est-ce qui pourrait être les freins à mon ascension, bah, ça va être peut-être des ampoules, des courbatures. Donc, je visualisais un peu tous les freins qui pouvaient être amenés à mon défi pour me dire, bon, c'est pas pour autant que j'ai amené des pansements ou que j'ai... Non, mais le fait de me dire que potentiellement, j'allais pas aller au bout, parce que problème physique, tu te fais une cheville ou machin, bah, j'étais aussi OK, tu vois, avec ça.
Okay.
Donc, je suis partie après sur... la randonnée simple, quoi. Écoutez, mon corps, on m'appelait la gazelle parce qu'évidemment, j'arrive pas à rester avec le groupe, avec Miguel, on traçait, etc. Donc, il nous faisait toujours de ralentir. Et pour dire à quel point le corps est super bien fait, tout le monde, après, chaque journée, on prenait la saturation.
Ouais.
Aucun effet, moi, de l'altitude jusqu'en haut. J'étais quasi à, tu vois, à 80% de saturation d'oxygène, où certains sont tombés à du 40, etc. Quoi. Donc, le corps est juste...
Incroyable.
Donc ouais, une rando quand même assez dingue. Tu montes, tu fais des paliers, faut t'acclimater. Donc tu dors en bivouac, tu redescends dormir pour justement faire ce temps d'adaptation. Et puis nous, on avait fait le choix de ne pas prendre de porteur. Parce que...
Et attends, si on revient déjà au début, le Kilimanjaro, il me semble qu'il y a plusieurs chemins possibles et qu'il y en a clairement des plus faciles que d'autres.
Évidemment, on avait choisi le chemin le plus difficile.
Voilà.
On était avec des gens qui avaient envie de se défiler. Hein.
Okay.
Donc, on était 8
personnes. Vous étiez synchro là-dessus.
Okay. Donc, on prend le chemin le plus difficile.
Par contre, dans le groupe, ensuite, on fait le choix si on fait appel à un porteur ou pas. Et vous, que tous les deux ou tout le monde aussi ?
Alors, à la base, on était sur les 8, on est 3 à décider de porter notre sac. Okay. Au bout de 2-3 jours, le mec s'épuise, commence à avoir justement les effets de l'altitude, un peu des pertes de connaissances, un peu de folie... des sueurs chaudes, etc. Ouais. Donc, au bout du deuxième jour, il décide de donner son sac au porteur.
Okay.
Moi, dans cette image-là, je ne juge pas du tout les gens qui prennent des porteurs, etc. Ouais. Mais il y a un côté un peu excessif. Il y en a qui abusent aussi, où ils arrivent avec limite le matelas, la pompe, etc.
Ah, ouais.
Pas dans notre groupe, mais on l'a vu. Et ça vient un esprit très, très colon, je trouve, tu vois. L'image, pour moi, n'était pas bonne et ça reste mon défi. On a une chance incroyable d'avoir des gens qui nous accompagnent, qui te montent la tente, qui te font à manger pendant ces 5 jours, etc.
Bah
parce
que
tu ne peux pas le faire en autonomie totale. Nous, on aurait voulu ça.
Vous êtes les 8 participants.
Ouais.
En plus des 8, il y a quand même du monde. Hein. Tu peux juste nous dire...
T'as presque le double emporteur.
Ouais, c'est ça.
Tu vois, un mec qui te fait à manger, un mec qui va t'aider pour les tentes. Il y a des relais aussi pour se faire apporter la nourriture. Donc toi, tu gères ton eau. Et du coup, nous, on a fait le choix avec Miguel du coup, de porter nos 15 kilos tout le long. Quoi.
Voilà, j'allais te demander le poids. Donc, 15 kilos.
Ah, ouais, 15 kilos. Du coup, tu fais le choix de... je peux dire que tu ne prends pas un slip de plus.
Ah bah oui.
T'as pas ton... tu ne te pomponnes pas, tu machins.
Le nécessaire.
Et c'est ça aussi qui est chouette. Ton confort, tu l'oublies, évidemment, pendant pendant ces 5 jours-là. Et c'est aussi cette conscience-là, de, vu que c'est toi qui vas le porter, que chaque gramme est très important, quoi. Donc ça, c'est vrai que c'était une fierté de pouvoir aller aussi au bout, ah bah, et de cette façon-là. Pour moi, le goût, il n'aurait pas été le même si on te donne et que tu pars, tu sais, en,
ah, c'est pas pareil.
En tête rando. Ouais, puis déjà, tellement reconnaissant qu'il porte. Enfin, je trouve ça dur. Moi, ouais. c'est des surhommes, ces gens-là. Donc, ouais, moi, en tout cas, c'était important de faire à manger avec eux, de monter ma tente, et on était un peu des fois mal vus, tu vois. C'est...
Ah, de participer.
De participer, parce que...
Vous étiez mal vus par
eux. Même l'équipe, ou le on va dire pas le chef, mais c'était si tu rends les porteurs plus essentiels, etc., alors qu'ils le sont. C'est pas parce que tu partages les tâches qu'ils le sont pas, mais il y avait un truc où je pense que très habitué à que des gens qui se mettent les pieds sous la table. Ou, donc, on sent que culturellement, c'était pas forcément au début bien vu. On l'a tout de suite dit. Pour nous, c'est important. En fait, ils font partie de l'équipe. Bah, c'est pas... nous, touristes qui arrivons, et vous, les porteurs d'un côté, c'est pour moi trop difficile. Donc, non, faut qu'on bouffe ensemble.
Équipe,
exactement. C'est grâce à vous qu'on peut aller en haut, en fait.
Ah ouais.
Donc, ils font clairement partie du projet. Et ça, pour moi, c'était vachement essentiel que ça soit, qu'il y ait une égalité là-dessus, quoi.
L'ascension, vous la réalisez en combien de jours, du coup?
Ça peut se faire en gros en 4 jours et un à 2 jours pour descendre. Nous, on est monté en 3 et descendu en 1.
Waouh!
Ouais.
Ce qui est court quand même.
Ce qui est court, ce qui se fait. Par contre, plus jamais, t'as plus envie de marcher, de voir un caillou, etc. Le retour, la descente est dure. Parce que tu t'es programmé à ce fameux pic.
Alors attends, quand t'arrives en haut là, parce que bon, tu te dis, ok, on va monter pour aller quand même en haut. Mais en fait, finalement, c'est un peu cette phrase bateau, c'est pas la destination qui compte, mais le voyage. On est d'accord que là, ça se représente bien. Parce qu'en haut,
c'est
il fait très froid.
Horrible.
Il y a plein de monde.
Il n'y a alors pas trop de monde, il n'y avait pas trop de monde, mais en fait, c'est exactement ça, et ça, il m'a fallu arriver en haut, j'ai été un peu déçue quand t'arrives en haut. Tu attends ce pic, je me suis dit, ouais, tu vas avoir une vue incroyable, t'es le toit quand même de l'Afrique, tu cailles, il fait moins 20 degrés, tu ne peux pas enlever tes gants, etc., tu as quand même moins 50% d'oxygène, donc il fallait redescendre vite, il y en avait un qui saignait du nez, qui était sûrement en train de faire aussi un œdème.
Tu ne restes pas à Pépouze 3 heures, tu peux pas.
J'adore la rando. Pour ça, où tu montes là-haut, limite, tu peux prendre, tu vois, te poser, contempler, etc. Là, pas du tout. Et c'est là, je me suis dit, mais... Et puis, la dernière montée qui est dure. Tu vois, tu montes de nuit, tu avances à petits pas. Et là, je suis en train de me dire, mais vraiment, mais pourquoi je fais ça? En fait, moi, j'ai kiffé toute la rando d'avant. Pourquoi je suis en train de m'infliger ça, là? Et c'est là la notion de l'engagement. Parce que vu que je ne l'ai pas fait, à la base, pour moi, et là, pas que j'en voulais à mes gars, mais il y a ce truc-là de... Pourquoi je l'ai suivi, en fait, là-dedans? Enfin, moi, ça me va très bien, en fait, de rester en bas. D'aller vraiment à ce pic-là, etc., de mettre comme ça en difficulté. Et t'arrives là-haut, bah, t'as vite le lever de soleil, où c'est beau, et tu vois quand même. Mais sur le coup, c'est tellement physiquement quand même difficile que je voyais pas trop
l'intérêt.
L'intérêt, quoi.
Donc le sens, puisqu'on parlait d'engagement, là, en fait, tu décroches un peu en mode quel est l'intérêt, quel est le sens que je donne à tout ça, en fait.
Et que c'est très important, les choses difficiles, ça revient à ça, de se dire les choses... Si tu n'es pas pleinement aligné, si tu ne les fais pas pleinement pour toi, ça ne fonctionne pas. Et c'est...
Là, tu aurais été à deux doigts de ne pas aller. Il t'aurait resté quelques mètres, mais de ne pas aller au pic, en fait.
Vraiment. J'avais envie de me mettre en boule et d'attendre. Non.
Et qu'est-ce qui a fait ce switch de bon aller?
Le défi. Le défi d'aller au bout, de dire qu'est-ce que ça fait quand même, ce manque d'oxygène encore sur ton corps, de le voir de mes propres yeux aussi là-haut et de dire je l'ai fait, quoi.
Donc là, tu es plus allé chercher quelque chose qui t'appartient.
Oui, bien sûr. Okay. Et c'est ça qui m'a fait... Et pour le coup, j'ai monté facilement. Moi, j'ai eu zéro nausée, zéro mal de tête. Enfin, vraiment facile, pour le coup.
Oui, il y a l'effort physique, j'imagine.
Oui, mais pas de...
Ouais, mais pas d'autres traumas à gérer. Non.
Et en fait, je me suis rendu compte que je n'aimais pas marcher. Donc, c'est con, quand même.
À quel moment tu t'es rendu compte de
Assez vite. Sur la rando, ce qui me plaît, en fait, c'est... j'adore... me balader, contempler, me poser, en fait. Il y a un truc qui est très méditatif, je trouve. J'adore ça, ça me libère beaucoup. Mais la marche pour la marche, tu vois, je n'irais pas faire Saint-Jacques-de-Compostelle. Non, pas du tout. Enfin, j'aime pas ça. Donc, je m'en suis rendu compte assez vite. C'est pour ça que je me suis dit, c'est con quand même.
Mais du coup, il y a le défi.
Il y a le défi. Et c'est clairement le défi qui fait que tu t'accroches. Et ce dépassement de soi, il y a ce truc de fierté. J'ai fait le Kilimanjaro quand même, ça le fait, je trouve, que quand tu le dis
clairement.
Comme ça. Donc ouais, il y a eu un truc, et puis d'être reconnaissante pour mon corps et mon esprit, quoi. Te dire, tu vois, avec la volonté, avec, je sais pas, je suis assez passionnée par le corps humain et la force du mental. Et là, ça le montre, quoi, que que n'importe qui, entre guillemets, pourrait le monter. On a vu des gens de tout horizon aussi, de tout âge. Sans entraînement aussi, c'est possible. Écoute, ton corps, il réagit bien, quoi, quand même.
Sur, parce qu'on parle beaucoup de l'ascension, mais il y a la descente. Ouais. Tu commençais à nous en parler. Ouais, voilà.
Il y a eu un peu tout le monde. Une fois que tu dis, bah, en fait, ça y est, c'est fait, quoi. Mm. Et là, tu dois redescendre tout ça, quoi. Ou bah, t'as quand même des courbatures, t'as un peu mal au genou. Et puis, bon, bah, peut-être le défi de. Je l'ai fait, quoi. Donc, ouais. plus trop d'intérêt. Donc là, t'as le temps à justement. Et c'est tout le travail de réflexion de, ok, comprendre le vrai sens de. Tu vois, c'est pas la destination, c'est le chemin. Et c'est là, au final, qu'il y a tout qui se met et que tu comprends qu'est-ce que c'est le Kili. C'est pas un sommet, c'est 5 jours d'échange avec les porteurs, avec le noyau que tu crées aussi. C'est une colo géante et une expérience, tu sais, décuplée émotionnelle, quoi. Mmh. Donc, en fait, il y a tout ça qui se met en place. C'est juste, alors ça, c'est propre à chacun, mais enfin, le faire juste pour le défi.
C'est intéressant parce qu'en même temps, quand tu ramènes cette expérience à ton entourage, c'est ce que tu vas dire, j'ai fait le Kilimandjaro, c'est ce que les gens vont retenir, alors que de rentrer dans le détail de, bah, tu vois, j'ai discuté avec Bidule, là, à un moment donné, j'ai vécu ça, j'ai observé ça, bah, ça, c'est plus difficile, en fait, à mettre des mots, à se représenter, alors que c'est là où ça a été le plus dur que juste au sommet.
Et de voir aussi ce qui était chouette. Et cette notion d'engagement, moi, me parle depuis toujours, de voir que pour un même projet, on avait tous des engagements différents. Les raisons, tu vois, n'étaient pas du tout les mêmes. D'autres, typiquement des filles sportives, d'autres de se prouver à soi-même des choses. D'autres. Et je trouve ça aussi génial dans un projet d'avoir cette compréhension aussi. Souvent, bah, on le perd, ça. Que le sens n'est pas le même pour tout le monde avec un même projet. Donc ça, c'est aussi, je trouve ça vachement intéressant. Ça a été pour moi une petite école de vie, quoi, une leçon de vie, encore. De dire que c'est important de... Mais par contre, de le faire, d'être en accord avec pourquoi tu le fais. Donc, tu vois, si c'est le défi sportif, bah, c'est super et tu seras. Mais c'est un peu on pourrait le coller aux épreuves de n'importe quelle vie, quoi. De faire les choses.
Justement, aujourd'hui, même si c'était déjà présent dans ta vie, la question de l'engagement, là, le fait d'être rentré du Kilimandjaro, comment est-ce que tu peux davantage grandir de cette expérience et le mettre à profit dans ton quotidien ?
Bah, c'est fou, bah, ça m'a amené encore plus loin de dire que c'est fou. Enfin, il n'y a pas de limite sur nos rêves, sur nos ambitions, etc. C'est là que j'ai pris la décision de quitter mon travail actuel aussi, de décider de tout faire pour ne pas scolariser Maé, tu vois, qu'il ne soit pas scolarisé en maternelle, de partir 6 mois à faire de l'humanitaire avec mon fils et mon conjoint. Donc il y a eu des prises de décision de se dire, déjà que je n'avais pas trop de limites et d'hommes, mais de les repousser aussi. Et de le vivre l'instant présent encore. Parce que pareil, après la Tanzanie, après ce voyage-là, on est parti voir les peuples Maasai. Enfin, il y a eu tout un projet après aussi environnemental et humain au travers de ce pays-là. Et de se dire, ton engagement, il peut être toujours grandissant et plus fort et pas de se contenter de...
Mais en tout cas, dans ta vie, si on vient un peu résumer, c'est des voyages, le fait de partir, de rencontrer et de réaliser des projets qui, du coup, quand tu reviens dans ta vie un peu plus quotidienne, te nourrit et t'autoriser encore plus à dire, mais en fait, quel est le sens que je veux donner à ma vie ? Ok, on pourrait m'attendre à avoir un CDI, un machin, un truc, mais ça ne me plaît pas, ça ne m'anime pas, donc je m'autorise à voir les choses autrement.
Exactement.
Et à le faire, quoi.
À le faire. Ça me redonne de la confiance pour... Je pense que c'est ça qui me nourrit, c'est à chaque fois de sortir d'une zone de confort. Mmh. Je pense que dès qu'il y a un truc confortable, je reviens dans le confort.
C'est pas bon.
Ouais, non, il faut que je le bouscule pour aller chercher un peu plus loin. Et ce qui n'est pas évident, tu vois. Moi, mes parents, ils me l'ont encore dit, là, et j'ai 38 ans. Demander limite l'autorisation. Donc, quand je voulais tout quitter, là, j'avais pas trop envie de. Alors que c'est bête, ils l'ont bien accueilli, mais parce que tu sais que tu vas devoir justifier des choses. Et vu que c'est des choses profondes, j'ai pas envie de les justifier ou qu'on m'accepte encore une fois tel que je suis, point. Tu vois. Mais ouais, il y a encore ce truc-là, quoi.
Qui vient se joindre à notre podcast pour la fin?
C'est des petites oies.
C'est des oies?
Ouais.
Des oies. Elles ont c'est pas bien. De prénom particulier Non.
C'est non, oies. Non, non. Si tu veux, d'ailleurs, renommé. On appelle le mouvement et...
On arrive bientôt à la fin de ce podcast et j'imagine qu'il y a plein de gens à qui ça a fait du bien de t'entendre et qui peut-être se disent mais moi aussi j'aimerais arriver à davantage mettre du sens, mettre de l'engagement. Est-ce que tu aurais un conseil à ces personnes pour qu'elles, tu vois, qu'elles passent un peu plus à l'action de
un petit truc
sens.
Simple, d'y aller, tout simplement. Non mais c'est, pour moi, recréer de l'équilibre, c'est d'abord d'avoir du déséquilibre dans ta vie, donc pas avoir peur de ça. savoir fermer des portes pour en ouvrir des, enfin, tu vois, des nouvelles. C'est assez bateau ce que je dis, mais en vrai, c'est vrai. Et c'est de mettre la première impulsion et souvent le reste, en fait, en découle, quoi. Donc, pas d'avoir de croyances limitantes, de foncer, de s'aimer et feu !
De se mettre en mouvement, quoi.
De se mettre en mouvement, exactement. J'attendais que tu le dises.
Super, merci beaucoup.
Merci à toi, Mathilde.
À très vite.
À bientôt.
Merci pour votre écoute. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Si vous souhaitez aller plus loin sur vos émotions, je vous laisse découvrir mes programmes en ligne et plein d'autres outils sur mon site mouvement.mathilde-depolis.fr. Je réalise et monte ce podcast toute seule. Alors, si vous aimez cet épisode, je vous invite à vous abonner, le partager autour de vous et à laisser un avis sur iTunes, Apple Podcasts. Cela vous prendra quelques minutes, mais me donnera beaucoup d'énergie. On se retrouve sur mon compte Instagram, @mathildedepolispsy, pour plus d'astuces et de contenu ludique autour des émotions. À très vite pour un nouvel épisode.